À votre santé. 163e émission de l'Association citoyenne pour des centres de santé dans le Pays de Valois. Bonjour les auditrices, auditeurs de RVM. Nous voici encore aujourd'hui en compagnie.
Bonjour, Christophe Grison, donc agriculteur à Mareuil et président de la coopérative Val-France.
Et Christian Max.
Et moi-même, Hélène Mazur. Vous vous souvenez, chères auditrices, auditeurs, que nous avons déjà interrogé notre invité sur les jardins de Mareuil. Et aujourd'hui, nous voulons élargir le propos, comme il nous l'a dit, les présidents de
La coopérative Val-France.
Voilà, la coopérative Val-France et puis partie prenante d'autres organismes. Et nous allons pouvoir finalement évaluer, je dirais, d'une certaine façon, sortir des jardins de Mareuil pour évaluer l'impact de cette agriculture raisonnée et des organismes de la structuration, etc., qui permet d'aller vers une agriculture justement de plus en plus raisonnée et protégée. Donc, je crois, Christian, tu as un petit peu regardé des documents là-dessus.
Oui, oui, j'ai même regardé la télé.
Oui.
Et en regardant le samedi 19 novembre... C'est dans l'air, et ben j'ai vu apparaître le visage de monsieur Christophe Grison qui se promenait du côté de certains silos au bord de l'Oise en train de charger une péniche, et j'ai appris qu'il était président de Val-France. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que Val-France?
Alors Val-France, c'est une coopérative. Bonjour à tous d'abord. Val-France, c'est une coopérative qui regroupe 1400 agriculteurs, qui a environ une trentaine de silos de points de collecte, si vous voulez. Et donc l'objectif de la coopérative, c'est de collecter les céréales de nos agriculteurs, les mettre en marché, les vendre pour eux et bien sûr payer leurs apports. Et donc on va, pour faire simple, de Creil jusqu'à Fontainebleau. Voilà, une trentaine de silos tout autour de Paris.
Ah oui.
L'avantage de Val-France, c'est qu'on est embranché train sur certains endroits, comme par exemple à Saint-Marc, à Nanteuil-Loudouin, où on peut charger des trains. Et un train, mine de rien, c'est 1300 tonnes qui partent dans des wagons et c'est 45 camions en moins sur la route. De même, une barge, une péniche, comme on chargeait à nos gens, eh bien, c'est nos gens sur Oise, bien sûr, c'est deux gros containers de 1800 tonnes. Vous imaginez, un camion, c'est 40 tonnes. Donc, 3600 tonnes, bah, c'est pareil, c'est une centaine de camions en moins sur les routes. Donc voilà, c'est un impact environnemental et ça nous permet d'envoyer du blé directement sur le port de Rouen. Là-bas, il y a une union de coopératives, donc qui regroupe plusieurs coopératives, qui s'appelle Sénalia. Et donc, à partir de là, on charge des gros bateaux qui vont aller en destination du Maroc, de l'Algérie, du Pakistan, pour nourrir toutes ces populations là-bas qui n'ont pas la possibilité de cultiver du blé.
Et pourtant, c'est une plante méditerranéenne à la base.
Oui, effectivement.
Alors, quelles sont vos missions? Parce que là, je vois dans le papier que j'ai pu télécharger sur votre site, on parle de mission. Alors, vous n'êtes pas militaire, donc...
Notre mission, en fait, on est le prolongement de l'exploitation agricole. Une coopérative agricole, c'est un peu le prolongement. Et donc, voilà, la mission de la coopérative, c'est de conseiller ses agriculteurs pour les aider à cultiver correctement, répondre aux cahiers des charges de nos partenaires industriels. Par exemple, on a certains contrats avec la meunerie parisienne pour faire des baguettes pour les Parisiens. On a un moulin, par exemple, qui est à Verneuil, en Seine-et-Marne, Verneuil-l'Étang, et le silo de la coopérative est à 300 mètres. Donc, il n'y a même pas de camion. Entre le moulin et la coopérative, c'est un tapis. Donc, on emmène le blé pour faire la farine, notamment la marque commerciale Francine, qui est connue. Et on travaille avec les grands moulins de Paris. Mais on travaille avec plein d'autres acteurs. Mais même dernièrement, on est en train de lancer un programme avec McDonald's pour fournir du blé de label rouge, ce qu'on appelle le label qualitatif rouge, pour faire les petits pains qui vont faire les Big Mac. Voilà.
Donc, ça va devenir mangeable chez McDonald's?
Ah, mais ils ont fait énormément de progrès chez McDonald's. Hein. Je vais vous dire, si tout le monde... D'ailleurs, regardez, les médias ne critiquent plus jamais McDonald's sur la malbouffe. C'est terminé. Hein. Peut-être qu'il y a 20 ans, on mangeait mal, mais aujourd'hui, au niveau qualité... Je parle qualité. Ils vendent des fruits, ils vendent plus forcément excusez-moi l'expression, des cochonneries. Hein. Ils ont fait énormément de progrès.
Heureusement, pour la santé publique.
Il y avait besoin, sans doute. Et donc voilà, la coopérative va vendre aux agriculteurs des engrais, des semences pour qu'ils puissent faire pousser leurs céréales. Et après, l'agriculteur, l'été, va livrer sa récolte à la coopérative et il va dire à la coopérative, bah, soit je vends mon blé tout de suite et quel est ton prix, ou soit il fait confiance à la coopérative, il dit à la coopérative, je mets mon blé à ta disposition et la coopérative va s'occuper de vendre ses céréales en le rémunérant à la fin de l'année.
Alors justement... Là, vous avez parlé du transport par voie ferrée et voie fluviale. Bravo, bravo. Et du coup, ça me fait revenir aux valeurs de ces coopératives. Comme vous avez des valeurs, les jardins de Mareuil, vous pouvez nous les développer?
Alors déjà, les valeurs d'une coopérative agricole, c'est la gouvernance. Il faut savoir que tous les agriculteurs sont sociétaires de leur coopérative. En fait, la coopérative appartient aux 1400 agriculteurs. Donc ça, c'est très important. On a une assemblée, on a des assemblées de sections où les agriculteurs de la région vont faire remonter leurs attentes, leurs sujets, qu'est-ce que vous allez faire dans tel silo. Alors, comme on a créé Pierre-en-Valois, les silos de la région, c'est Plessis-Belleville, Nanteuil, Baie, Mareuil, Barbry, Saint-Mar, et Plessis-Belleville. Bon, voilà, on a des silos dans le coin. Et donc, chaque agriculteur va venir en disant, moi, je suis sociétaire de Val-France, la coopérative m'appartient. Et après, ils vont voter, ces gens-là vont voter pour des délégués, qui eux-mêmes, les délégués, vont voter l'ensemble du conseil d'administration de la coopérative. Donc je préside en fait le conseil d'administration de la coopérative. Et la coopérative est vraiment gouvernée par les agriculteurs. C'est-à-dire moi, tous les ans avec mon directeur, c'est un binôme, c'est un tandem. Mmh. On travaille ensemble, main dans la main, et on décide quel argent on va remettre dans l'investissement pour améliorer les silos, améliorer l'outil industriel, et quel argent on va renvoyer dans les exploitations agricoles. Par exemple, l'année dernière, sur un chiffre d'affaires de 250 millions d'euros, on a renvoyé au mois de juillet 13 millions d'euros dans les exploitations agricoles. C'est-à-dire qu'on a aidé nos agriculteurs à hauteur de 13 millions. Mais par contre, on a quand même gardé 5 à 7 millions d'euros pour faire les travaux. Parce qu'il y a les silos, il faut les rénover, ça vieillit. Donc tous les ans, il faut qu'on mette un petit peu d'argent pour... là, par exemple, à Baie, on a voté un budget pour faire un nouveau pont bascule, parce que l'ancien n'était plus aux normes. Voilà. Tout le temps, on doit rénover... mettre à jour notre parc, entre guillemets, immobilier de nos silos.
Oui, parce qu'un silo, ça peut être dangereux si c'est mal entretenu. On en a vu quelques-uns exploser.
Heureusement, il n'y a pas eu, de problème depuis 30 ans, mais effectivement, on a eu le silo de Blaye qui avait explosé suite à la poussière qui est très inflammable. Mais maintenant, on a des aspirateurs dans tous nos silos. On fait justement énormément attention pour avoir un entretien méticuleux. Et nous, nos chefs de silo ont une obligation toutes les semaines de faire le tour de tout l'ensemble des installations. Ils ont des points avec des endroits où ils doivent faire une visite. Ils ont avec leur smartphone une application. Ils doivent valider comme quoi ils sont bien passés à cet endroit. Ils doivent mettre la photo. On vérifie tout ce qui est installation électrique. Il y a vraiment un gros travail de suivi.
J'avais lu que c'était aussi en rapport avec une agriculture qui évite les produits et en particulier de conservation des grains. Donc vous avez une autre technique.
Alors effectivement, le blé, en fait, quand on stocke du blé longtemps, c'est-à-dire on le récolte au mois d'août, la moisson, et on va le stocker jusqu'au mois de février, mars, avril, l'année d'après. Donc le blé est dans des silos. Mais le blé est à température, on va dire. Et donc, si jamais il est chaud, il y a des proliférations d'insectes. Mmh. Et donc, on ne peut pas faire de pain, de meunerie, s'il y a des insectes au milieu de la farine. C'est normal. Pas plus qu'on ne peut pas l'exporter. Et donc, la technique qui est un petit peu novatrice et récente, c'est de mettre des groupes froids. Donc, le concept, c'est comme une grosse climatisation qui va envoyer du froid dans le blé pour refroidir. Et du coup, les insectes ne peuvent pas se reproduire parce que c'est trop froid. Donc, c'est une méthode vraiment, douce. Voilà, il n'y a pas du tout d'utilisation de produits insecticides comme on faisait dans le passé. Encore une fois, ça c'est la France. C'est la France et certaines coopératives de la région qui ont mis ça en place. Parce que si on importe du blé, russe et ukrainien, eux, ils n'ont pas du tout cette technique-là. Eux, ils vont avoir droit aux insecticides et avec des doses sans doute beaucoup plus fortes que ce qu'on avait encore nous en utilisation il y a 4-5 ans.
Alors justement, sur votre site, on insiste beaucoup sur la démarche RSE. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ?
Alors, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Et on a passé un audit. Ça fait 3 ans qu'on se prépare à cet audit. Et on a eu la note de niveau confirmé. Donc, c'est comme si on avait 15 sur 20, pour faire simple.
C'est une responsabilité vis-à-vis de quoi ?
Alors, c'est vis-à-vis de nos salariés, vis-à-vis des gens qu'on nourrit. C'est vis-à-vis de notre environnement, de nos voisins. Donc, c'est aussi bien l'environnement que le social, que l'économique.
L'humain et la terre, si j'ose dire.
Exactement. Voilà. C'est beaucoup de banques en ce moment s'intéressent au niveau de la RSE en disant que c'est vraiment l'avenir des entreprises qui doivent... on peut plus se battre que sur l'économie. Il faut aussi qu'on ait une différence. Et puis pour attirer aussi des jeunes talents, il faut aussi que l'entreprise soit jeune, dynamique. Et la RSE, ça motive toutes les équipes pour avoir un beau projet fédérateur d'entreprise.
Je pense que les générations actuelles, les jeunes qui ont... qui ont devant eux, qui vivent le dérèglement climatique, la pandémie, etc., sont très sensibles aux questions environnementales, puisqu'on avait, on a même vu des ingénieurs qui ont refusé, un groupe d'ingénieurs qui ont refusé d'aller dans le sens du qu'on voulait...
De l'agriculture intensive, pas raisonnée.
Voilà, c'était l'agriculture, je ne sais plus si c'était au niveau industriel ou agricole, mais en tous les cas, des pratiques dominantes actuelles qui détruisent l'environnement. Et voilà.
C'est plus d'une semaine d'audit par AFNOR, donc c'est vraiment très très sérieux.
Ah bah oui, AFNOR, c'est la référence pour les normes.
Je peux vous dire qu'on a des points d'amélioration. Heureusement, ils ne sont pas nombreux, parce que la coopérative, vraiment, c'est totalement impliquée dans cette démarche RSE. Et je vous dis, on a une belle note confirmée, donc c'est vraiment pas mal. On va pouvoir en parler à nos assemblées qui sont la semaine prochaine. On va pouvoir expliquer ça à tous nos agriculteurs, que ce n'est pas un vain mot, ce n'est pas que de la com, c'est vraiment une démarche d'entreprise.
Alors, justement, ce label RSE, il est appliqué à qui? Parce que là, on parle de... C'est donc quel organisme, là? C'est dans Valfrance? Non, c'est...
Agri-Confiance.
Donc, c'est par rapport à toutes les coopératives de Valfrance, ou c'est un...
Valfrance, c'est une seule coopérative. Voilà,
c'est une seule coopérative.
En France, il y a plein de coopératives.
Énormes, ces coopératives, c'est pour ça que je...
Bon, nous, elle n'est pas énorme, mais il y a des coopératives qui montent jusqu'à 10 000 agriculteurs, comme notamment dans le sucre. Des grosses coopératives dans le sucre. Non, nous, on est une grosse coopérative parmi les petites, voilà, comme on aime à dire. Mais l'agriculteur, n'importe quel agriculteur a mon portable, il peut m'appeler en direct s'il y a un souci, ou celui du directeur. Donc on a vraiment cette proximité de terrain. Et c'est important. On a ce souci que ça ne soit pas un gros bazar, pour être poli. Voilà, c'est vraiment une petite coopérative à taille humaine, et on a cette proximité avec nos agriculteurs, et c'est vraiment important. Et ainsi aussi, on a cette proximité aussi avec nos clients. Et donc effectivement, Christian le disait, on a une démarche qui s'appelle Agri-Confiance, qui a été née dans les années 92. Et en fait, c'est une démarche de qualité. Au départ, c'était une démarche de qualité, de traçabilité de nos productions agricoles, céréales, colza, maïs. Et au fur et à mesure, c'est devenu un peu plus environnemental. Et donc c'est par cette démarche qu'on a réussi à former nos agriculteurs, à former nos équipes Valfrance qui travaillent à la coopérative. Et voilà, c'est une démarche de progrès, d'amélioration de nos pratiques, de traçabilité, de sécurité alimentaire et de souveraineté alimentaire.
Alors moi, je suis très sensible évidemment à toute cette question de protection de l'environnement. Et j'ai vu que donc dans... alors là, c'est Valépi. Non, Valépi fait des...
Valépi, c'est une autre chose. Valépi, c'est une organisation qui gère l'expérimentation à 4 coopératives. Donc, voilà, nous sommes...
Alors, justement, ces 4 coopératives, j'ai vu qu'il y avait en fait 4 secteurs, quoi.
C'est ça.
Ce qu'on appelle l'agriculture conventionnelle, l'agriculture bio. Alors, je ne sais pas, l'agriculture raisonnée, elle se place dans quoi?
Bon, en fait, l'agriculture conventionnelle, j'ai envie de dire, c'est on est tous en raisonnée, hein, on ne s'en rend pas compte, mais les modifications de nos agriculteurs et de nos démarches font qu'on est tous dans une démarche beaucoup plus raisonnée qu'on l'était il y a 30 ans.
Et il y en a 2 autres donc, qui m'ont interpellée. Donc, il y a l'agriculture productrice d'énergie, et l'agriculture qui s'occupe de la bonne santé des sols, quoi. D'accord. Si je comprends bien.
Alors,
vous pouvez nous expliquer.
Il y a effectivement pas mal de projets de méthanisation qui sont nés depuis 5 ans. D'ailleurs, puisqu'on nous sommes à Crépy-en-Valois, il y a 2 projets à Gondreville et à côté. L'idée, c'est quoi? C'est de mettre des intercultures. Donc, ce n'est pas une culture... ça ne réduit pas la consommation ou la production des céréales. Ça va être entre un blé et un maïs, c'est de l'interculture. On met des cultures, entre guillemets, ce qu'on appelle des couverts environnementaux ou des cultures dédiées. Voilà, c'est pas vraiment des cultures qui sont à destination de l'alimentation humaine pour pas réduire justement la production agricole. Ça, c'est très important.
Et c'est un gros avantage, c'est que ça évite de laisser les sols à nu pendant
les sols
l'hiver.
Nus. Oui. Voilà. Et donc là, on va faire du gaz qui va permettre justement d'être moins dépendant, notamment avec le conflit ukrainien, du gaz russe. Ça, c'est important de le dire en ce moment. C'est ce qu'on appelle donc du gaz vert. D'ailleurs, il est autorisé...
C'est du méthane, alors.
Oui, c'est ça. Il va être injecté dans les tuyaux. Dans ce qu'on appelle, il y a un gros tuyau de transport qui s'appelle le rebours. Ça va être injecté dans le rebours. Et nous, dans la méthanisation, par exemple, à côté de Gondreville, nous sommes à 18 agriculteurs et on fournit dans ce méthaniseur à 18. Après, vous disiez qu'il y a l'agriculture de conservation.
Alors, excusez-moi, je peux aller jusqu'au bout là, de la méthanisation. Est-ce qu'il y a des déchets avec cette production?
Alors, une tonne qui rentre dans un méthaniseur, c'est une tonne qui sort. Et donc, les tonnes qui sortent, on appelle ça du digesta. C'est une espèce de boue, pour faire simple, pour pas que ce soit trop compliqué pour les auditeurs, c'est une espèce de boue où dedans, dans ce substrat, justement, il y a des éléments nutritifs qu'on va remettre dans nos champs. Donc, en fait, on va ça va nous servir. On va réutiliser ce substrat, ce digesta, qu'on va remettre dans nos champs, et en fait, ça va servir d'engrais.
Et c'est expérimenté, c'est vraiment
Non seulement un engrais qui est expérimenté, qui a un label, mais en plus, il est même agréé en agriculture biologique. Donc, vous voyez, c'est vraiment un engrais tout à fait naturel.
D'accord.
Parce qu'autrefois, on pouvait trouver aussi
des bouts
de sucrerie ou des bouts de...
Les bouts rouges, il y a
les bouts rouges.
Ah, de stations urbaines.
De stations d'épuration. Voilà. Et aujourd'hui, on a ça. Et bon, moi, j'ai interrogé Monsieur Bizoire, là, le président de
Bioval Métal.
De Bioval Métal, dont vous faites partie. Et il m'a dit, sur une parcelle, le digesta, on l'étendra une fois tous les 5 ans.
Voilà, c'est ça. Mais il faut savoir que dans un méthaniseur, rien ne se perd, tout se transforme. Donc une tonne qui rentre, il y a une tonne qui sort.
D'accord. Et donc le dernier...
C'est ce qu'on appelle l'agriculture de conservation, où là, c'est un autre concept. On met toujours des couverts permanents, c'est-à-dire le sol doit toujours être avec une plante. Et on va ressemer, par exemple, un blé dans un couvert, ou on va ressemer un colza dans un couvert. Le but du jeu, c'est qu'il y ait toujours des couverts. Voilà.
Et alors, ça appauvrit pas la terre? Parce qu'elle est tout le temps sollicitée, finalement.
Elle n'est pas sollicitée. Oui, mais d'un autre côté, c'est des plantes qui rendent aussi au sol des éléments nutritifs.
Elles apportent des... D'accord.
Par exemple, vous pouvez avoir de la luzerne ou des févroles qui vont rendre de l'azote dans le sol, et derrière, on remet un blé, le blé va repomper l'azote. Donc, c'est un peu en économie circulaire, si vous voulez.
Le système racinaire n'est pas forcément le même.
C'est pas le même. Mais après, c'est aussi très technique. Hein. C'est une technique qui est très utilisée en Argentine, au Brésil. Nous, on essaie de la démarrer un petit peu dans la région. Parfois, c'est pas toujours si évident que ça, parce que nous, on a une pluviométrie qui est plus élevée. Puis aussi, ça développe d'autres inconvénients. On va pas se mentir, il y a beaucoup de sangliers dans la région, ils adorent ça. Donc, vous retrouvez avec des populations de sangliers ou de cervidés assez conséquentes, et donc ça pose un autre problème. Mmh. Voilà. Mais bon, c'est une technique qui mérite au moins de se développer. Et voilà, il n'y a pas une seule technique. Voilà, il faut aujourd'hui qu'on balaye devant nous et qu'on puisse avoir plein de techniques. Le but du jeu, c'est vraiment d'améliorer nos pratiques à l'école et de communiquer au grand public en disant on ne fait pas n'importe quoi en France, soyez rassurés sur vos agriculteurs. J'insiste là-dessus parce que quand je vois vraiment des pratiques agricoles que j'ai visitées dans des exploitations russes ou même au Brésil, franchement, la France, on est exemplaire. C'est dommage des fois de tirer sur les agriculteurs alors qu'on est vraiment exemplaire.
Peut-être qu'on en parlera un autre jour, mais j'avais lu une statistique par rapport aux objectifs de la COP 21 ou je ne sais plus quel autre numéro, où il fallait réduire les produits, les pesticides, les engrais, etc., et que la France n'avait pas respecté son objectif. Vous êtes au courant de ça ?
La France est quand même l'un des plus gros producteurs, donc c'est normal, par rapport à l'Europe, c'est normal qu'on utilise un peu plus de produits phytosanitaires ou d'engrais que nos voisins. Après, c'est pas forcément parce que vous réduisez la production, vous réduisez la pollution. Parfois, une plante qui est bien nourrie, qui est bien emmenée jusqu'au bout, avec un beau mode de production, peut être tout à fait résiliente au niveau environnemental.
D'accord.
Mais bon, ça sera un autre sujet, il faudra qu'on en reparle. Je sais que c'est un sujet qui est compliqué à expliquer, parce que c'est très technique. Je peux comprendre que ça fasse peur, mais je peux vous dire que moi, j'ouvre ma ferme. Si quelqu'un un jour veut venir visiter ma ferme, voilà, je in situ, on en parlera un week-end. Je vous ouvrirai ma ferme et j'ai toujours accepté du public sur la ferme pour justement réconcilier le monde urbain et le monde rural.
Eh ben, merci beaucoup, Christophe. Donc, chers auditrices, auditeurs d'RVM, nous allons terminer sur cette bonne parole. Vous êtes bienvenue au Jardin de Mareuil et nous comptons continuer ces invitations qu'ils nous apportent. Donc, vous pourrez nous réécouter ce samedi 10h30, mardi 13h, jeudi 16h et bien entendu en podcast. Au revoir.
Au revoir. Et moi, je confirme, la visite est très intéressante. Pour l'avoir déjà faite.
Merci à tous. Merci. Bonne journée.
Bonne journée.